pense qu'on peut dire que tout le Québec est à nouveau extrêmement troublé par le meurtre de deux femmes lundi soir. Ça se passait dans les Laurentides. Un ex-conjoint violent qui s'en serait pris à son ex-conjointe et à la mère de celle-ci dans des conditions de violence assez extrêmes. L'homme se serait ensuite enfui et à bord de sa voiture et aurait même cherché à mettre fin à ses jours en rentrant de plein fouet dans un autre véhicule. Évidemment, tout ça, ça nous trouble parce que d'année en année, le nombre de Québécoises qui sont tuées, assassinées par leur conjoint ou par un membre de leur famille, un ex-conjoint, c'est atrocement le même. Alors que regardez ça comme vous le voulez, c'est toujours une dizaine, une douzaine. Il y a eu des années extrêmement plus mortelles. En 2018, par exemple, il y avait 20 femmes et fillettes victimes de meurtres qui ont été tuées dans un contexte familial. On s'en sort pas de cette situation-là. On ne semble pas être capable de mettre vraiment le doigt sur le problème, d'être capable de dire aux hommes, parce que, puis je le dis tout de suite, parce qu'à chaque fois que je parle de ce sujet-là, il y a des hommes qui m'écrivent puis qui m'insultent pour me dire « Vous parlez tout le temps de la violence des hommes envers les femmes. Vous parlez jamais de la violence des femmes envers les hommes. » C'est plus de 80 % des hommes qui s'en prennent aux femmes. Il y en a des femmes violentes, mais je vous le dis, là, c'est pas ça le problème. Le problème, ce matin, c'est pas une femme qui s'en est pris à son conjoint, c'est à nouveau un homme qui s'en est pris à son ex-conjointe et qui a fini par tuer également sa mère. Ça arrive parfois même que ce sont les enfants qui y passent également. On a un problème avec la colère des hommes au Québec. Cette colère-là, elle est tue. Elle est peut-être pas assez entendue, là, puis c'est probablement ça un des problèmes, puis il va falloir qu'on s'y attelle. Mais il y a un problème avec les gars qui ont de la misère à accepter la séparation. Puis on pourrait penser que c'est des gars, des hommes d'une certaine génération. Non, chez les plus jeunes aussi, on semble avoir le même genre d'enjeu. Alors, est-ce qu'on peut, au cours des prochaines minutes, j'aimerais ça qu'on réfléchisse un peu ensemble à cette question-là. Moi, ça me préoccupe beaucoup. J'ai déjà eu l'occasion de raconter la violence conjugale que j'ai déjà vécue et c'est sûr que j'ai essayé au fil des ans de comprendre ce qui peut se passer dans la tête d'un gars. Et j'ai de la misère à y arriver parce que ça prend des spécialistes. Alors, je vous en présente. Geneviève Landry est directrice générale de l'Entraide pour hommes. Bonjour, Geneviève.
Bonjour, Isabelle.
On se parle un peu chaque fois qu'un événement comme celui-là arrive. C'est bien malheureux. Et on est tous troublés par ça. Je sais que toi aussi, comme femme, comme mère de famille, ça te bouleverse tous ces féminicides-là.
Toujours. Je suis constamment secouée, troublée, bouleversée. Un peu comme tout le monde, de dire « Ah non, pas encore un autre
ouais. ».
Effectivement, tu disais en introduction, on a l'impression qu'on s'en sort pas et le portrait est toujours le même. C'est-à-dire un homme qui n'accepte pas sa rupture amoureuse. La 75% des cas, c'est exactement cette situation-là.
Ouais.
Et souvent, ce sont des hommes qui avaient déjà demandé de l'aide ou que les policiers avaient été sur les lieux là, de violence conjugale. Donc, on a vraiment l'impression qu'on s'en sort pas, effectivement. Tu sais.
Justement, dans le cas de l'homme violent là, qui aurait assassiné son ex-conjointe et la mère de celle-ci là, à Sainte-Sophie, là, lundi, c'est un récidiviste. Là. D'après ce qu'on sait, c'était la troisième conjointe avec qui il avait été violent. Là.
Ça fait partie des éléments de risque. Lorsqu'on évalue à l'entraide pour hommes, par exemple, on évalue s'il y a un risque d'homicide conjugal. Les antécédents, c'est une des premières choses qu'on va regarder. Ce qu'on va voir, c'est beaucoup d'antécédents criminels, d'antécédents de violence envers des ex-conjointes, envers des enfants. Et il y a une question de personnalité aussi. Hein. Ce n'est pas tous les hommes qui vivent une rupture amoureuse qui commettent l'homicide. Là. Souvent, ce qu'on va voir, c'est une personnalité très rigide. Difficulté aussi à être empathique, à avoir de la compassion là, envers la conjointe. Donc, ça, c'est les premiers facteurs là, qu'on va regarder là, au niveau du risque. Mais effectivement, dans le cas qu'on parle aujourd'hui, il y avait plusieurs éléments de risque. Et une fois qu'on a regardé tout ce qui est au niveau de la personnalité, au niveau des antécédents, là, on va regarder au niveau des comportements. Est-ce qu'ils acceptent ou non la rupture amoureuse? Ce sont des hommes qui n'acceptent pas. Est-ce qu'il y a un nouveau conjoint dans le portrait? Souvent, ce qu'on va voir, Isabelle, c'est encore plus difficile pour eux pour lui d'accepter la rupture amoureuse s'il y a un nouveau partenaire. Et est-ce qu'il y a un changement subi là, dans les comportements? Est-ce que c'est un homme impulsif? Est-ce que la violence augmente? Il y a comme une gradation là, dans la violence. Et ce qu'on va voir, un des éléments hyper importants, c'est lorsque de la surveillance, de l'harcèlement, ce sont des indices où là, on se rapproche de plus en plus là, à un plan d'homicide.
Tu me permettras, Geneviève, de donner nos numéros de téléphone 514-790-9850. De l'extérieur, vous faites le 1-866-790-9850. J'aimerais ça que les hommes appellent. J'aimerais vraiment ça que les gars qui nous écoutent. Puis vous avez pas, vous n'êtes pas obligé d'être un extrême violent pour m'appeler. Juste des fois, juste dites-moi là, si vous vous sentez par moment en colère puis vous ne savez pas où la mettre ou comment la gérer, cette colère-là. Si vous vous sentez justement, ce que vient de nous décrire Geneviève Landry, impulsif, jaloux, tous ces espèces de petits symptômes là, qui fait qu'il y a une certaine violence ordinaire qui peut s'installer. Parce que c'est insidieux, cette affaire-là, Geneviève. Des fois, c'est pas toutes des mauvais gars puis toutes des mauvais hommes. Là,
pas du tout. On s'attend. Lorsqu'on parle de drame conjugal, de féminicide, on s'attend à ce que ce soit le gros bum tout tatoué. Là, j'exagère un peu, mais souvent, quand on en parle, c'est l'image qu'on a, alors que non. C'est des hommes qui ont extérieurement, on a l'air bien, bien, bien correct. Là. Ouais. Donc, ça peut arriver à un peu n'importe qui, n'importe quelle classe sociale. Là. Ça n'a rien à voir avec la classe sociale et tout ça. Oui, c'est insidieux parce que ça devient une obsession pour cet homme-là. Et s'il n'y a pas d'aide autour, il n'est pas capable de prendre un recul et de se voir aller. Et c'est là qu'on va remarquer là, qu'il y a une augmentation là, du risque, une augmentation de la violence et tout ça. Et ce qui est important de savoir, c'est que l'homicide conjugal, c'est pas un geste qui est spontané. On se lève pas un matin en ayant envie de tuer quelqu'un. C'est quelque chose qui se prépare. Donc, c'est important qu'on connaisse les signes avant-coureurs. Moi, je disais, on pourrait peut-être éduquer un petit peu plus l'entourage à comment je fais quand je vois mon frère, mon fils, mon collègue de travail qui va pas bien. Comment je fais pour lui dire? Qu'est-ce qui pourrait l'aider? Comment je fais pour l'amener à aller consulter vers des ressources? Parce qu'évidemment, l'homme ne dira pas, hey, moi, j'ai envie de tuer ma femme. Ça va prendre ça prend un professionnel qui établit un peu les facteurs de risque, qui pose des questions assez directement et qui creuse un petit peu plus là, pour aller plus loin avec lui.
On a Rémi qui nous appelle. Je veux dire, nos lignes sont pleines. On va essayer de donner le plus grand nombre de gens l'occasion de s'exprimer là-dessus. Rémi, bonjour. Vous êtes enseignant au secondaire?
Oui. Puis je trouve qu'il y a un cruel manque au niveau du curriculum scolaire. On forme des enfants à devenir des futurs citoyens. Pendant un bout, on avait ajouté les cours d'éducation sexualité, mais il n'y a aucun cours sur la vie de couple. Sans de dire aux petits gars, juste leur dire, « Hey, les gars, là, si vos amis sont pas corrects avec leur blonde, ça se fait de leur dire, « Gars, mon homme, t'as besoin d'aide. » Puis je trouve que on oublie beaucoup ce volet-là. Puis on réglerait peut-être des problèmes en commençant, peut-être pas en première année, là. Mais je pense que les élèves de secondaire 4 et 5, il devrait y avoir un cours là-dessus. Ne serait-ce comment gérer vos émotions puis ces trucs-là.
Oui, mais c'est un très bon point, Rémi. Vous avez tellement raison. Vous envoyez, vous, justement, parce que 4-5, justement, c'est souvent, ils ont des blondes, ces gars-là, ils ont des chums. Et c'est vrai, ils découvrent la vie d'adulte de plus en plus jeune, on a l'impression, sans avoir forcément tous les outils. Même les adultes, des fois, ils ont de la misère à se retrouver. Alors, imaginez quand on est encore un peu un pied dans l'enfance ou en tout cas dans l'adolescence. Rémi, vous êtes là? Ah, Rémi nous a quittés. Mais enfin, alors Geneviève, cette question-là est toujours...
Bien, effectivement, les 14-17.
Ouais.
Je pense qu'il faudrait tellement investir dans des programmes d'intervention chez les 14-17. C'est là que ça commence, la vie de couple.
Ouais.
Et souvent, j'entends encore là, dans les cours scolaires de dire, « Ah, il m'aime, il est jaloux. » Non, non, la jalousie, c'est pas de l'amour. Alors, effectivement, il y a de la prévention à faire chez les adolescents pour qu'ils comprennent qu'est-ce qui est de l'amour, qu'est-ce qui en est pas.
Ouais.
Parce que comme femme, j'accepte quand est-ce que je dois dire non. Je pense qu'il y a toute cette éducation-là à faire. Et il y a les gars à apprendre assez tôt. Nous, on reçoit souvent des appels d'adolescents qui se sont aperçus, qui disent « Moi, j'ai des comportements violents. » Mais malheureusement, Isabelle, il n'y a pas d'investissement, il n'y a pas de sous qui descendent de financement pour des programmes pour les adolescents. Et je suis d'accord avec Rémi, ça commence. Là. C'est là qu'on devrait commencer.
On a Steve qui nous appelle, qui a vécu une rupture amoureuse. Rémi, pardon Steve, merci de nous appeler. Ça n'a pas été évident pour vous, je pense, Steve.
Oui, bonjour, Madame Isabelle, ainsi que votre invité. Je vais juste aller dans les grandes lignes. J'ai eu une séparation qui a été assez houleuse. Moi, je voulais régler à l'amiable. Je ne suis pas un homme violent, je suis plutôt du style conciliant. J'ai voulu faire une offre raisonnable à madame dans le domaine du possible et du raisonnable. Madame a été influencée par une avocate que je vais taire le nom, mais qui beaucoup l'actualité dernièrement. Ça fait lisez entre les lignes. Je veux pas me réveiller avec des problèmes avec cette dame-là. J'en ai assez eu comme ça. Mais la dame a tellement craqué la tête de mon ex-conjointe qu'à un moment donné, elle m'est arrivée avec quelque chose qui avait carrément ni sens, mais c'était plus une accumulation de tous les tours de passe-passe de cette charmante avocate qu'à un moment donné, mon ex-conjointe a sorti de la maison. Je me suis reviré de bord. J'ai sacré un coup de poing dans un mur pour la première fois. J'ai 50 ans, madame. Je suis pas un jeune de 23 ans, puis de 33 ans. J'ai 50 ans. Ça faisait au-dessus de 22 ans qu'on était ensemble. Moi, j'ai voulu régler d'une façon douce, amicale et sans vague, mais à cause de cet ignoble individu, je vais la nommer comme ça, mais je nommerai pas son nom, mais je suis sûr que vos auditeurs...
Oui, mais disons, par rapport à la situation puis de cette rupture-là, ça vous a mis en colère parce que vous aviez l'impression que vous étiez finalement...
J'avais plus de droit. J'ai voulu arranger à l'amiable pour pas qu'il y ait de chicane puis qu'il n'y ait pas de mauvaise vague inutile. Mais il faut se dire aussi que oui, il y a des avocats qui sont là pour nous aider et de être médiateurs. Ouais. Mais il y en a d'autres qui sont pas mal plus fouteurs de troubles, pour pas dire sans aucun jugement qu'ils prennent les hommes pour des guichets automatiques. Je veux pas vexer personne avec
Mais je comprends, si vous avez tellement
les
raison.
Les femmes ne sont pas toutes comme ça. Ouais. Je vais le dire tout haut et tout fort, là, parce que les gens aiment bien ça, généraliser et tout, là. Les femmes sont pas toutes comme ça. Mais je pense que il y a de la mauvaise volonté au niveau des représentants qui devraient être là pour plus concilier que foutre le bordel.
Que mettre de l'huile sur le feu, effectivement. Merci beaucoup, Steve, de votre témoignage. On va s'arrêter ici. Geneviève Landry, merci beaucoup d'avoir pris le temps. Geneviève, directrice générale de l'Entraide pour Hommes. On va poursuivre après la pause. On aura l'occasion de parler au psychologue Yvon Dallaire, qui a écrit pas mal de choses sur les relations hommes-femmes et qui a des choses intéressantes également à nous dire là, sur la violence dans les cas de séparation. On va parler également à une mère dont la fille a été victime de violences conjugales. Tout ça au 514-790-9850 pour nous joindre. 1-866-790-9850. On essaie de comprendre pourquoi les hommes ont de la difficulté à accepter la séparation. Si c'est votre cas, si vous l'avez vécu, si ça vous a enragé, la rupture, la façon dont ça s'est passé, dites-moi un peu comment vous l'avez géré, cette colère-là. Non, comme le disait Steve, c'est pas tous les gars qui sont violents, heureusement. Mais c'est vrai qu'il y a des moments où tu as l'impression que tu te sens tout seul. Et ça peut générer cette violence. Auquel cas, il faut absolument aider les gars, les hommes, à canaliser ce sentiment-là et à pas l'utiliser contre leur ex-conjointe. À tout de suite, tout le monde. On a Nathalie qui est au bout du fil. Bonjour Nathalie, je pense que vous êtes la mère d'une jeune femme qui a été victime de violences conjugales.
Oui, effectivement. Bonjour, j'écoute votre émission assidûment, c'est très intéressant. Écoutez, le sujet me touche beaucoup parce que moi-même, bon, quand j'étais plus jeune, j'ai déjà eu un conjoint violent que j'ai quitté. Mais c'est très dur de voir ses propres filles plus tard dans la vie qui vivent ces choses-là. Et je suis très étonnée de voir la réaction de beaucoup de jeunes hommes aujourd'hui. L'exemple de Mathieu, elle avait 17 ans, elle était, elle fréquentait un garçon, elle sortait avec lui. Et puis, ce que moi j'ai remarqué, c'est beaucoup de, c'est des comportements que j'appellerais de passif-agressif. C'est que disons qu'il arrivait une situation qui était clairement le jeune homme avait clairement mal agi. Il retournait ça contre elle et finalement ma fille était convaincue que c'était elle le problème. Ouais. Et à un moment donné, moi j'ai dû intervenir fortement, c'est-à-dire que j'ai dû appeler la police parce qu'il avait été violent dans la maison chez moi. Et j'ai appelé la police parce que je lui ai demandé de quitter les lieux et il a refusé. Et quand j'ai appelé la police, les policiers sont arrivés ici ils ont discuté avec le jeune homme. Et j'ai été abasourdie d'entendre un policier me dire « Vous savez, madame, c'est un bon petit gars. » J'ai comme... Les deux bras m'ont tombé. J'ai donné à mes deux filles des valeurs de femmes autonomes qui s'assument, respectueuses et tout ça. Mais je crois qu'il y a un réel problème des garçons qui... Ma fille s'est déjà fait dire par le garçon, je vais parler à tout le monde, puis il n'y a personne qui va sortir avec toi.
Ouais.
Elle était au secondaire à ce moment-là. Mais c'est incroyable là, qu'on vive ça encore en 2021. Moi, ça me...
Ça vous inquiète?
Ben voyons, je pensais qu'on avait réglé ça, ces affaires-là. Tu sais que les garçons savaient que respecter les filles et comme ça être capable d'en arriver à ce point-là, même refuser quand un parent, tu sais, moi, il a refusé mon autorité quand je lui ai demandé calmement de quitter les lieux. Et il m'a dit, il n'en est pas question. Okay,
wow. Ouais, ouais, ouais.
D'accord.
Ouais, alors, merci Nathalie, parce que ça montre bien que même chez les plus jeunes, c'est ce qu'on disait tout à l'heure un peu avec cet enseignant Rémi qui nous appelait. J'ai une conseillère pédagogique toutefois qui me dit qu'elle est responsable du dossier éducation à la sexualité au secondaire, puis elle dit que les relations amoureuses et la violence amoureuse font partie des contenus obligatoires depuis 2018-2019. Peut-être que c'est comme d'autres choses, on n'a pas assez le temps, puis que ça finit par être effleuré, ou en tout cas peut-être pas assez discuté. Une chose est sûre, c'est qu'il faut en parler plus, parce que ça ne change pas. Il y a toujours autant de violence à l'égard des femmes, et en particulier dans les contextes de relations amoureuses. Et la question qu'on se pose aujourd'hui, c'est pourquoi les hommes, les jeunes comme les plus vieux, ont de la difficulté à accepter la rupture, la séparation. Avec nous, Yvon Dallaire, il est psychologue, il a écrit plusieurs livres sur les relations hommes-femmes. Bonjour, M. Dallaire.
Bonjour.
Est-ce qu'il y a une réponse à cette question? Pourquoi les gars ont de la misère à accepter la rupture?
Je pense qu'il faut faire une distinction ici entre la personne et le comportement. En général, quand une personne, homme ou femme, devient violent, c'est le comportement qui est violent. Mais à la source de la violence, il y a généralement une souffrance. Et la souffrance provient de besoins légitimes frustrés, de... C'est le résultat d'une escalade qui se fait dans une discussion là, qui tourne au vinaigre entre les deux. Là. Donc, il faut vraiment... Le comportement et les violences, c'est sûr que c'est inacceptable, mais c'est surtout la souffrance sous-jacente qu'il faut traiter. Et, bon, pour les hommes, il y a peu de centres d'entraide pour les hommes qui peut les aider justement à mieux gérer leur tendance à passer de l'agressivité à la violence.
Ouais.
Il y a quand même aussi, là aussi, une différence à faire entre l'agressivité. L'agressivité, c'est si je me fie à l'étymologie, c'est à, qui veut dire vers, et grécéré, c'est-à-dire aller vers la satisfaction de ses besoins. Mais quand on est empêché d'aller vers la satisfaction de nos besoins, on est frustré, on est souffrant, et c'est là où le comportement peut devenir violent.
Mmh.
Alors, pour moi, c'est important de faire la différence entre la personne qui est souffrante et le comportement qui est violent et inacceptable.
Oui. On fait la différence, mais en même temps, en bout de ligne, si la réaction, c'est que ça, il s'en prend à sa conjointe ou à son ex-conjointe ou aux enfants. On a vu aussi des meurtres d'enfants beaucoup au Québec. Puis, comme je disais tout à l'heure, les chiffres, on les regarde. Bonhomme à l'an, c'est toujours à peu près une douzaine de femmes qui laissent leur vie chaque année au Québec. Ça n'a juste pas de bon sens. Ils vont d'aller. On dirait qu'on stagne, on n'avance pas. C'est toujours un peu les mêmes choses. Moi, je vous avoue, je veux bien le différencier les concepts, mais comment est-ce qu'on peut en arriver à dire, ben cette année, il n'y en a plus de femmes qui sont assassinées par leur conjoint? Est-ce que c'est possible, ça?
C'est un très bel objectif, mais quelque part, je crois que la violence, c'est épouvantable ce que je veux dire, là, mais la violence fait comme partie du comportement humain lorsqu'on est frustré. Alors, c'est sûr que si on pouvait empêcher les frustrations des gens, ils n'auraient pas de comportement violent.
Ouais.
Mais qu'est-ce que vous voulez? La nature humaine étant ce qu'elle est.
Ouais. Comment expliquer la frustration d'un homme qui se fait dire par sa conjointe, regarde, c'est tout, là, ça sera, on est arrivé au bout de notre relation, ou la jalousie, là, des gars qui disent, hey, c'est pas vrai que, tu sais, la fameuse phrase, si moi je peux pas t'avoir, il y a aucun homme qui va t'avoir. Comment je comprends là, les blessures de l'enfant, je comprends tout ça, les frustrations dans le processus de la rupture, c'est pas toujours évident. Il y a quelqu'un qui nous a appelé tout à l'heure, nous dire, les avocats, souvent, ils mettent de l'huile sur le feu. C'est difficile pour tous les conjoints de rompre, pour les femmes aussi.
Oui.
Pourquoi les hommes utilisent la violence pour le faire savoir?
Parce que les gens, généralement, ils vont très souvent exploser. Ils vont pas aller demander de l'aide au moment où ils commencent à être souffrants. Là. Parce que pour un homme, souffrir, c'est comme moins être homme. Donc, on ne parle pas de nos émotions, on ne parle pas de nos souffrances. On ne va pas consulter comme les femmes le font beaucoup plus facilement. Là. Parce que les femmes qui discutent entre elles, de se faire écouter, de se faire entendre et si possible comprise, c'est sûr à ce moment-là que ça permet d'adoucir la souffrance sous-jacente à des comportements qui peuvent devenir violents. Mais c'est évident que dans la jalousie, il y a deux types de jalousie. Là. Il peut y avoir une réaction de jalousie à un comportement où, légitime. Là. Par exemple, si je vois ma partenaire être embrassée par quelqu'un d'autre et que je doute de quelque chose, ma réaction peut être légitime. Là. Mais la jalousie pathologique que les hommes dont on a entendu parler récemment dans les médias, ça, c'est inacceptable. C'est une véritable maladie. Là. Parce qu'il n'y a aucune personne... Personne n'appartient. Alors, les personnes jalouses, possessives, croient que l'autre leur appartient, ce qui n'est pas le cas. Là.
Qu'est-ce qu'on peut dire aux hommes qui nous écoutent et qui sentent parfois la rage monter, la jalousie, la frustration, puis qui se demandent comment gérer tout ça?
Généralement, la longévité du couple est inversement proportionnelle à la violence et à la jalousie. Plus le couple va vers des relations toxiques, des relations violentes, moins ce couple-là a de chances de survivre à long terme. Donc, c'est sûr que chaque personne doit apprendre à gérer ses impulsions. Et ça, on peut l'apprendre pendant l'enfance, mais malheureusement, comme vous l'avez dit tantôt, si on a des blessures de l'enfance dont on n'a pas réussi à devenir résilient, ça va s'exprimer lors de nouvelles frustrations.
Je lisais ce matin un rapport qui faisait état là, souvent de dans une situation où il y a de la violence extrême par rapport à d'un conjoint à son ex-conjointe ou à sa conjointe, dans 40%, près de 40% des cas, il y a une présence d'alcool. Il y a l'alcool qui est intervenu ou autre drogue. Donc, c'est multifactoriel finalement. Là. Il y a le psychologique, mais il y a aussi si le gars a un problème d'alcool, s'il y a un problème de toxicomanie, ça peut se... Il y en a qui ont l'alcool méchant, là.
Oui, il y en a qui ont l'alcool heureux, là, joyeux, mais il y en a d'autres qui ont l'alcool plutôt agressif là, et colérique, malheureusement. Et oui, dans 40%, il peut y avoir d'autres facteurs impliqués. Là.
On a Philippe qui nous appelle. Bonjour Philippe, vous êtes dans un processus de séparation?
Oui, ça fait 3 ans et demi que je suis dans le processus de mon côté, puis je suis vraiment bien aligné avec le commentaire de M. Dallaire, là, dans le sens, de mon côté, c'est de la violence psychologique là, que je subis là, de la part de mon ex-conjointe là, depuis plusieurs années, là, qui fait en sorte que le processus est long. Moi, je prends pas de position, là, mais le comportement, les réactions, tout ça se gère. C'est difficile de comprendre, puis ça a été difficile dans mon cas, là, dans le sens que j'ai fait mon deuil de la relation, on a été 18 ans ensemble. Là. J'ai fait mon deuil de la relation la première année, puis la deuxième année, ça a été un deuil de la personne parce que je reconnaissais plus la femme avec qui j'avais été. Puis c'est là que j'ai tombé malade, moi, dans mon cas. Et j'ai consulté, j'ai été suivi, ça m'a grandement aidé, mais j'ai pas résulté à...
Vous avez consulté, Philippe, c'est ça. Ça, c'est intéressant. Donc, vous avez fait le geste que certains hommes hésitent à faire, c'est-à-dire que vous avez été chercher de l'aide, là, vous.
Je suis allé chercher de l'aide parce que je fonctionnais plus, moi. J'arrivais plus à me concentrer, j'arrivais plus à fonctionner normalement. Mm-hmm. C'est un processus, dans mon cas, j'ai été chanceux, là. Au bout de 4-5 mois, j'étais fonctionnel, là. J'ai eu de la bonne aide, là, mais n'empêche que mes réactions n'étaient pas des réactions de violence dans mon cas. C'est moi qui le subissais. Oui,
je comprends.
Et donc,
mais vous n'étiez pas bien.
Non, absolument pas. Là. Ouais. J'ai souffert psychologiquement à travers ça. Il y a eu des comportements où est-ce que mon ex appelait mon entourage pour essayer d'influencer les perceptions des gens sur sur moi. Tu sais, ça a été, j'ai tout perdu ce que j'avais comme contact d'amis lorsqu'on était ensemble suite à la rupture. Fait que tu sais, il a fallu que je me rebâtisse à zéro là. Puis tu sais, aujourd'hui, tu sais, j'ai rien de réglé encore. Tu sais, honnêtement, tu sais, je peux comprendre les femmes qui se battent pour aller chercher leur part, parce que moi, dans mon cas, c'est mon ex qui faisait plus d'argent que moi. Et puis, tu sais, moi, je cherche simplement à aller chercher, tu sais, à faire la, comment dire, à partager les acquis, les avoirs qu'on avait, là, le patrimoine.
Avez-vous des enfants avec cette personne?
Oui, on a deux enfants. Au début, je les ai fait consulter, moi, de mon côté, parce que j'avais les assurances pour. Mm-hmm. Donc, tu sais, ils ont consulté eux aussi. Moi, je m'inquiétais pour eux au départ, ouais, là, ouais, plus ouais. que pour moi. Là. Mm-hmm. Mais ça a quand même bien été. Aujourd'hui, les deux adolescents vont très, très bien. On a essayé, je vous dirais que la bonne chose, c'est qu'on a réussi quand même dans notre séparation, là, dans notre processus, de pas trop impliquer les enfants là, dans tout ça. Il y a au moins ça qui s'est fait de façon respectueuse. Là. Fait que je te dirais que c'est plus l'autre côté, le côté psychologique sur d'essayer de me traiter de nom ou de me peinturer d'une façon que je suis pas, qui a été pénible là, parce que tu passes 18 ans avec quelqu'un, puis moi de mon côté, j'ai pas, tu sais, c'est quelque chose que je voyais pas d'elle pendant que j'étais avec elle. Donc c'est ce côté-là qui a été difficile pour moi. C'est pas la rupture de la relation, c'est vraiment la rupture de la personne que j'ai aimée.
C'est fou, Philippe, ce que vous racontez, c'est très juste. Je veux dire, je pense que faut le reconnaître aussi. On sait que la violence conjugale a plusieurs formes. Je disais tout à l'heure que c'est surtout des hommes qui en viennent à de la violence physique. Il y a quelques femmes, bien sûr, qui sont elles aussi très brutales et qui peuvent être très agressives physiquement. Chez les femmes, toutefois, qui ont une certaine forme de violence, c'est beaucoup plus la violence psychologique. Et c'est sûr que dans certains cas, on peut dire la violence psychologique subie par quelqu'un peut l'amener à avoir des comportements de frustration, puis même de violence. C'est vrai qu'il y a des gens, on le dit, puis il faut toujours faire attention quand on parle de ça, parce que ça peut pas justifier le comportement violent de quelqu'un. Mais ça peut arriver, effectivement, qu'il y ait des gens qui mènent à bout certaines personnes. En même temps, il n'en reste pas moins qu'on ne peut pas s'en prendre physiquement à quelqu'un dans aucun cas. Il faut toujours garder la tête froide. C'est comme ça. Après, on peut comprendre là, qu'un homme ou une femme, on arrive à une situation extrême où il dit, là, regardez, là, aidez-moi parce que je sais plus ce que je risque de faire et j'ai peur de ce que je pourrais faire. Et c'est ces hommes-là, il faut les pouvoir leur parler à ces hommes-là. C'est là où il faudrait qu'on puisse intervenir véritablement. Parce que comme le disaient mes invités tout à l'heure, c'est pas vrai qu'un homme se lève le matin en se disant « Hey, c'était la journée où je m'en prends à ma conjointe ou à mon ex ou à mes enfants. » Il y a une douleur extrême. Mais il faut faire quelque chose, absolument. Yvon Dallaire, vous restez avec nous, bien sûr. On va aller à la pause et on va également donner la parole à d'autres auditeurs là-dessus. Merci beaucoup, en tous les cas, à Philippe et à son témoignage. Yvon Lemay est avec nous. Il a déjà travaillé pendant plus de 20 ans dans un service d'hébergement père-enfant, la Maison Oxygène. On l'a reçu plusieurs fois à l'émission au cours des dernières années. Bonjour, M. Lemay.
Bonjour, Mme Maréchal.
Je sais que, bon, vous m'avez contacté ce matin parce que vous saviez que j'allais parler de ça forcément, puis que chez vous, là, ça vient toujours chercher quelque chose, hein, Yvon?
Ah, tout à fait, parce que moi, ça fait 7 ans que j'ai pris ma retraite. J'observe les choses maintenant vraiment un peu d'un autre point de vue parce que j'ai été tellement dans le bain pendant longtemps.
Mais c'est pour ça que je trouve que votre témoignage est fascinant, Yvon, parce que vous dites que ça ne change pas finalement. C'est comme si c'était un mal universel, mais qui fait toujours autant de victimes chaque année. Comment est-ce qu'on peut arriver? Pensez-vous qu'on va y arriver, Yvon, à régler ce problème d'acceptation de la rupture, de la séparation chez les hommes et éviter qu'ils deviennent violents dans ce contexte-là?
Ben, moi, effectivement, je suis optimiste de nature. c'est sûr que depuis plusieurs années, on n'arrive plus à faire baisser le taux là, de féminicide ou de drames conjugaux. Et puis, dans le fond, les drames familiaux qui se terminent par le décès des enfants, de la maman là, et du père, souvent, qui se suicide.
Ouais.
Ça aussi, hein, ça fait partie de la réalité. Il y a 20 ans, 30 ans, il y en avait beaucoup plus. Mais aujourd'hui, on n'arrive pas à faire baisser. Et ce qu'on voit, ben c'est aussi c'est l'iceberg. Hein? Alors on voit le dessus de l'iceberg, mais il y a tous les drames familiaux qui ne vont pas jusqu'aux homicides.
Ouais. Ce que j'appelle la violence ordinaire, là, même si elle n'a rien d'ordinaire, mais celle qui s'incruste au quotidien. Ouais.
Effectivement. Mm. Mais en même temps, je me dis, on est quand même passé d'une société il y a 25, 30, 40 ans où il y avait beaucoup plus de drames, moi je pense, familiaux, il y avait des homicides. Et bon, aujourd'hui, on est passé à, théoriquement, là, une douzaine par année. C'est encore pire, là, semble-t-il, là, dans ces temps.
Disons que depuis février, là, juste ce mois-ci, oui. Là, c'est cinq femmes, c'est énorme. Il y a Céline m'écrit, elle dit « Mon conjoint crie fort tout le temps, constamment. Il claque les portes, il boude. Il prétend qu'il n'est pas violent pourtant. Est-ce que crier pour faire peur à l'autre, est-ce que c'est pas une forme de violence? » Céline pose la question. Yvon Lemay là-dessus, puis j'aimerais entendre également le psychologue Yvon Dallaire. Alors, mes deux Yvon Lemay d'abord. Pour vous, c'est de la violence, ça, ce que vit Céline?
C'est sûr. Tout ce qui tend à intimider, à contrôler, plutôt qu'à discuter, qu'à dialoguer, c'est évident que on cherche à contrôler l'autre en montant le ton, en frappant le mur, en claquant les portes, c'est pas correct. On s'entend. En même temps, ce qu'il faut trouver, c'est des moyens. Moi, je suis un gars d'action. Je suis toujours à la recherche. Qu'est-ce qu'on pourrait faire de plus?
Oui, bonne question. Qu'est-ce qu'on pourrait faire de plus?
Oui, puis moi, je pense que il y a une voie qui n'a pas encore été vraiment utilisée. Puis il y a des voies, là, je pense que tout ce qui existe comme ressources actuellement, même s'il en manque, il y en a quand même de très bonnes ressources. Mais je pense qu'il faut faire ce que j'appelle en anglais du « reaching out ». Mm. Il faut aller vers les hommes. Dans plusieurs des cas qu'on a vus dernièrement, les gens savaient que ça allait pas bien. Il voyait qu'il y avait de la violence assez forte. Il y avait ce qu'on appelle les facteurs de risque étaient évidents. Et pourtant, on n'est pas arrivé. Et moi, je pense qu'il faut il faut mettre sur pied des nouveaux services de travailleuses, de travailleurs sociaux ou d'intervenants psychosociaux, etc., intervenantes aussi, qui vont aller voir ces hommes-là. Quand lui est arrêté par la police, quand ses voisins, quand ses copains voient qu'il est en train de dépasser les bornes, on ne doit pas attendre. On doit faire appel. C'est comme un cas de suicide. On laisse pas le gars ou la femme en détresse.
On est gêné parfois, on n'ose pas. Les gens vont dire, je vais me tourner vers Yvon Dallaire. Yvon Dallaire, vous êtes psychologue. Les gens souvent, ils osent pas non plus. Ben c'est pas trop de mes affaires. Là, de quoi
exact,
je me mets.
Hein? Oui, c'est ça. Tantôt, Isabelle, vous parliez de l'agressivité ou la violence des femmes plus comme étant psychologique que physique. Je suis pas d'accord avec cette perception-là, puisque je sais très bien que la pire des violences psychologiques qu'un homme puisse faire à une femme, et je suis sûr que vous allez me confirmer, c'est justement la bouderie, le silence. Mm-hmm. Quand un homme s'enferme dans le silence et qu'il coupe la communication avec sa partenaire, c'est sûr et certain que là, madame, en fonction de ce que vous êtes, vous allez, dans le silence, vous davantage faire des scénarios de catastrophe.
Il y a des femmes aussi qui sont bien bonnes là-dedans. En fait, Yvon, peut-être rephraser ou si vous me donnez la chance juste d'expliquer ce que je voulais dire, c'est que à chaque fois qu'on parle de ce sujet-là, il y a toujours des gens qui disent « les femmes aussi battent leur mari ». Ça se peut qu'il y en ait qui le fassent, mais ce que je voulais dire, c'est qu'il faut que personne se trompe non plus sur les statistiques. Elles sont très claires. La violence conjugale physique... C'est quand même des hommes envers des femmes. Ça, c'est documenté. Là. Je lisais encore les...
Attention. En dehors des crimes, des meurtres, où il y a de 3 à 4 fois plus de femmes tuées par leur partenaire, la violence que vous appeliez tantôt ordinaire,
oui.
Elle est autant le fait des hommes que des femmes. Mm-hmm. Il y a autant d'hommes qui sont battus, giflés, poussés, égratignés, on leur jette des objets, autant d'hommes battus par leur partenaire qu'il y a de femmes battues. Et je le répète, en dehors des crimes majeurs, en dehors des meurtres, il y a 3 à 4 fois plus de femmes tuées, le reste de la violence, elle est équivalente.
Okay.
Et ça, on a énormément d'études.
Le problème, parfait. C'est, majorité... c'est bon de le préciser, effectivement. Moi, je parlais des meurtres, là, des féminicides.
Oui,
on a, si vous me permettez, il y a Claude qui nous appelle, puis je vais vraiment lui parler tout de suite, parce que je ne veux pas qu'il nous échappe. Bonjour, Claude.
Bonjour.
On vous écoute.
OK. Moi, dans le passé, j'étais une personne qui était très explosive. Au point que si avoir juste un pépin avec mon automobile, là, je fais ça dessus. Là. J'ai fait de la violence physique, économique, psychologique. Puis un jour, j'ai entendu une émission au 98.5 sur un reportage, L'amour qui tue.
Ouais.
Puis je me suis posé la question, est-ce que je serais capable de faire ça? Ma réponse était oui. Donc, j'ai consulté la thérapie entraide pour hommes. Puis ça me ramenait à 98%.
Ah oui, donc ça se peut, ça vous a aidé beaucoup.
Ça m'a terriblement aidé. Maintenant, je connais mes limites, je connais mon élément déclencheur. C'est quand je frôle ça, je décroche.
Okay.
J'ai appris à d'escalader.
Est-ce que ça a été un long processus pour vous là, de vous sortir de cette énergie violente que vous aviez?
Ça me prend à peu près 4 mois.
4 mois? Mon Dieu, c'est vite! Vous allez me dire, quand on souffre, c'est long, mais en termes de temps, c'est... Et vous avez trouvé du réconfort auprès donc de Entraide pour hommes. Qu'est-ce qui vous ont fait comprendre, Claude, que vous n'aviez peut-être pas saisi ou maîtrisé avant, là?
Mais c'est les blessures refoulées de mon enfance, surtout. Tu sais, que moi, je faisais revivre aux autres ce que j'ai vécu dans mon enfance, puis c'était vraiment vrai, là. Si j'avais pas connu ce service-là en train de programme, probablement qu'aujourd'hui, je serais pas là en train de vous parler, je serais peut-être en arrière des barreaux.
Ah ouais, OK. Donc là, vous allez bien, puis vous êtes-vous dans une relation en ce moment, Claude?
Oui, depuis 96 que je suis marié. Puis je fais des gros points en compromis parce que ma femme est malade. Puis quand je respecte ça, puis tu sais, je garde mon calme.
Tant mieux. Ben écoutez, merci pour ce témoignage. Ça montre qu'il y a de l'espoir que les hommes qui sont aux prises avec ce genre d'enjeux peuvent s'en sortir. On va s'arrêter ici. Très courte pause. On vient tout de suite après. Audrey a vécu de la violence conjugale pendant 7 ans. Aujourd'hui, elle est intervenante auprès des jeunes. Elle nous appelle justement. Bonjour, Audrey.
Bonjour.
Vous vouliez nous dire quoi par rapport à tout ça?
Ben, écoute, très intéressant les témoignages de tout le monde, particulièrement les hommes. Moi, ce que j'ai envie de dire, c'est que moi, à l'époque, j'étais très jeune, j'avais 19 ans. Puis la personne m'a choisie dans le sens que moi, j'étais isolée de ma famille, j'étais isolée de mes amis pour des études. Puis cette personne-là m'a ciblée en tant que personne idéale pour être dans sa vie puis prendre le pouvoir sur ma vie à moi. Puis moi, tranquillement, j'ai contribué à ça aussi. Puis ce que j'ai envie de dire, c'est que la violence, effectivement, physique n'est pas la première. Moi, ça a pris 5 ans avant d'avoir cette violence physique-là. Ça a été beaucoup, beaucoup psychologique, beaucoup, beaucoup financière, beaucoup de l'isolement et tout ça. La personne est allée jusqu'à aller dans mon milieu de travail, travailler dans le même milieu. Donc, à un moment donné, j'ai dû tout abandonner, mes relations, mon travail, mon milieu de vie, pour repartir à zéro dans ma ville d'origine, parce que c'était une question de survie. Puis, j'ai envie d'adresser un message aussi d'espoir aux gens qui travaillent en intervention, parce que moi, la personne qui m'a éclairée, c'est un médiateur qui a eu une grande ouverture d'esprit puis une grande expertise de voir que cette personne-là était narcissique, voir que cette personne-là était profondément malade et croire en moi. Puis, le fait que cette personne-là a cru en moi, ça m'a mobilisée. C'est sûr que oui, une question de timing. J'étais prête à faire le bon choix et à partir vraiment pour dire « logo, je le fais » après 7 ans de relation. Mais ça reste que cette personne-là m'a vraiment donné le coup de pouce là, pour vraiment emboîter le pas. Ça, c'est par rapport au niveau peut-être plus personnel.
Merci beaucoup. Oui, puis auprès des jeunes, peut-être rapidement, puisqu'on termine.
Oui, mais en fait, au niveau de l'intervention, ce que j'ai envie de dire, c'est que ça prend une équipe d'intervention ou des intervenants qui sont solides dans le sens capables de tolérer une certaine violence verbale de ces hommes-là, parce qu'ils ont besoin de la verbaliser, ils ont besoin de la nommer, puis d'aller valider en tant qu'intervenant. Est-ce que je suis en train de comprendre que tu me parles d'un possible homicide? Si oui, qu'est-ce qui fait que tu es rendu là? Puis aborder le sujet comme on aborderait le suicide, comme on aborderait... faut vraiment... sortir de nos peurs en tant qu'intervenant, puis aller vraiment aborder le sujet pour s'assurer que la personne en avant de nous, oui, elle a des idées noires d'homicide, mais le déconstruire tout ça pour qu'elle accepte l'aide qu'on peut lui apporter, puis qu'elle puisse aller...
Merci beaucoup. Merci beaucoup, Audrey. C'est un très bon témoignage. Merci bien. Yvon Lemay a travaillé longtemps là, à la Maison Oxygène, entre autres, service d'hébergement père-enfant. Yvon Dallaire est psychologue. Tous les deux, je voyais ce matin là, que quand un homme demande de l'aide, c'est souvent à la suite, là, dans près de 90 % des cas, on dit la demande d'aide des hommes pour des comportements violents en contexte conjugal, ça passe toujours par une forme de contrainte. La contrainte, elle vient soit de la conjointe qui dit « Hey, va te faire traiter parce que je suis plus capable » ou elle vient du système judiciaire. C'est peut-être là aussi où il faut intervenir, Yvon Dallaire.
Oui, effectivement. Il faudrait que les hommes comprennent que demander de l'aide, c'est fort. C'est vraiment prendre soin de soi et c'est très humain que d'accepter d'avoir des faiblesses, que d'accepter d'avoir des souffrances, des frustrations et demander de l'aide justement pour développer des aptitudes relationnelles meilleures.
Yvon Lemay, là-dessus également, vous avez quelques conseils pour les gars qui nous écoutent?
Oui, bien rapidement, j'aimerais rappeler que dans le cas de deux drames familiaux l'an dernier, les gars étaient passés en psychiatrie, avaient demandé de l'aide. Et malheureusement, ça n'a pas été suffisant. Ouais. On dirait que tout le monde dans les services sociaux, dans les services médicaux, ne travaille qu'en silo. Et si ces gars-là avaient été référés à temps, après être passés en psychiatrie, avoir demandé de l'aide, avaient été référés à temps à des intervenants capables de valider leur souffrance, de voir et de reconnaître, bon, puis après, avec eux, regarder c'est quoi le problème, ou c'est quoi les problèmes, les prendre un par un et trouver des solutions, parce qu'il y en a. C'est un peu comme... Et tantôt, on disait les gars font subir de la violence physique, oui, mais il ne faut pas oublier que les gars se suicident sur 1300 suicides au Québec à chaque année à peu près, 80 à 85 % c'est des hommes. Mmh. Alors, il y a cette violence-là...
Il faut qu'il y ait un dialogue avec les hommes au Québec, c'est sûr, sûr.
Tout à fait.
Ouais. Merci beaucoup à tous les deux. Merci bien. Yvon Lemay, ex-directeur de la Maison Oxygène. Yvon Dallaire, qui est psychologue. Merci beaucoup d'avoir pris le temps de parler bien aux hommes et aux femmes aujourd'hui, à nos auditeurs. C'est un dossier qu'on suivra, là, qui est très important. C'est vraiment un enjeu de société. Il faut qu'on arrive à circonscrire tout ça, à mieux comprendre pour le bien-être de tout le monde. Je vous rappelle qu'il y a le point de presse de François Legault à 17h sur nos ondes. On va diffuser cette conférence de presse avec le ministre de la Santé et Services sociaux, Christian Dubé, bien sûr, le docteur Horacio Arruda y sera. On y sera, nous, également demain. On va certainement parler de ce qui va être annoncé aujourd'hui à 5h. Il y a plein de rumeurs à l'effet qu'il y aurait peut-être des réouvertures de restaurants dans certaines zones. On verra tout ça ensemble en fin de journée et demain à l'émission. Bonne journée.